Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h.
Bonjour à tous les passionnés du vin et de la vigne. Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter dans la boutique Nicolas de Toulouse, par exemple, au 22 avenue Saint-Exupéry, sur 101.4. Vous écoutez le numéro 1103 d'Invino depuis la création de l'émission. Rappelez-vous, c'était en 2004. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Emmanuel Poirmeur pour le meilleur du Pays Basque et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, premier salon mondial de l'œnotourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et Siver Cabernet de la marque Chef et Sommelier. Aujourd'hui à mes côtés, Christelle Taré, première femme maître caviste de France et caviste évidemment. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
Et puis Philippe Orbrac qui est notamment président de la Sommellerie Française. Bonjour Philippe.
Bonjour Alain.
Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Ludovic Vanson, qui est directeur adjoint du domaine d'Éole en Provence. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Alors racontez-nous un mot sur l'historique de ce domaine. Tout a débuté en 1993.
C'est ça, en 1993, où le domaine a été créé, a été repris en fait. A été repris par...
Il existait avant, c'est ça?
En fait, les vignes étaient, les raisins étaient emmenés en cave associative.
D'accord.
Puis le domaine a été racheté. Deux ans après, il a été revendu à Christian Raymond, qui l'a gardé pendant 25 ans.
D'accord.
Et il a changé de main dans l'hiver 2017-2018, appartenir maintenant à Marc Rebois.
D'accord.
Et je suis arrivé en 2018.
En 2018, quoi. Et avant, vous avez fait quoi avant d'arriver?
Et ben avant, j'étais écologue.
Écologue?
Oui, j'étais gestionnaire d'un parc naturel en région parisienne, d'ailleurs.
Où ça?
Le parc des Coteaux d'Avron, à Neuilly-Plaisance.
Ah oui.
Qui est un des plus petits parcs Natura 2000 de France.
Il y a combien d'hectares, là?
C'est tout petit, mais ce qui est intéressant dans ce parc...
3 mètres carrés, parce que prix du mètre carré en Ile-de-France,
on n'a
pas trop le temps de faire de l'écologie ici. Donc je
un joli parc sur les berges de la Marne.
Ah oui.
Les berges de la Marne qui avant avaient des beaux vignobles, et c'est comme ça que l'idée m'est venue.
Et alors le job d'écologue, c'est... Après on va revenir sur le vin, là, c'est parce que écologue, œnologue, c'est la même veine. Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
Eh bien, on cherche à valoriser un petit peu la biodiversité, faire en sorte que dans des espaces restreints, notamment comme en région parisienne, le peu de verdure qui reste... Eh bien, on l'optimise, on fasse en sorte qu'il y ait de plus en plus de biodiversité, que ça vive, que ça évolue et que ça perdure.
Et qu'est-ce qu'il y a comme bestioles? Il y a des sangliers, il y a des lapins, il y a des merles, il y a des perdreaux.
Pendant le confinement, vous avez vu un peu tout ce qu'il pouvait y avoir en région parisienne. Vous avez vu des renards passer. Ouais. C'est principalement les oiseaux qui sont mis en valeur.
Les chèvres.
Ouais. Non, c'est vrai. Les petits moutons aussi, c'est vrai.
Jusque la gare Saint-Lazare, maintenant sur les
côtes. Il y a quelques anglais aussi qui passent par le coin. Christelle?
Vous arrivez donc au domaine, comme vous nous dites, en 2018, avec l'ambition de prendre la succession de Mathias Wimmer, donc en 2022, c'est-à-dire cette année. Alors, êtes-vous prêt?
Vous l'avez viré?
Ça y est.
Non, il ne m'a pas encore viré déjà, c'est déjà pas mal. Mais j'ai eu 4 ans et demi pour me préparer à ça. Puis c'est important, en fait, quand je suis arrivé au domaine, je cherchais un mentor pour aller plus loin, puisque je ne venais pas du tout du métier, je n'étais pas d'une famille de vignerons. Et j'ai trouvé ce mentor en Mathias Wimmer, qui m'a accompagné, qui encore aujourd'hui est là, et avec qui on a vinifié plusieurs fois ensemble, et qui m'a transmis en fait ce qu'est l'ADN du domaine d'Éole, comme les gens le connaissent, et comme il doit rester.
Tout alors parlons-en de ce domaine, Christelle.
Oui, d'ailleurs, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à poser vos valises dans cette belle région?
Eh bien, il s'avère que je suis nîmois.
Voilà, c'est pour
donc
ça.
Donc je ne suis pas de très loin, mais malgré tout...
Est-ce que vous avez joué au rugby?
J'ai un peu joué au rugby.
Très bien, quel poste? Vous étiez avec les gros, vous, non?
Non, j'étais en troisième ligne.
Ah ben, c'est bien sûr, c'était pas très bien, ça.
Pas en première non plus, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Oui, en fin de compte, je suis nîmois, et en fait, il s'avère que jusqu'à mes 24 ans, j'avais pas bu de vin.
Jusqu'à 24 ans sans vin?
Mmh.
Vous étiez très malade à l'époque,
j'étais
avec modération, évidemment, mais quand même.
J'étais blafard, j'allais pas bien du tout.
Ouais, c'est ça.
Puis après, j'ai eu la révélation.
On joue au rugby jusqu'à 24 ans sans boire de vin, mais ça, c'est
c'est dur. Vous avez tout le temps perdu, vous avez jamais vu 3e étant positif, alors non?
C'était malheureusement la bière qui restait là.
Voilà, c'est la bière, exactement, c'est pour ça avec le rugby.
Mais bon, maintenant, la vie a changé.
Bah oui, vous êtes un petit passage à Pouligny-Montrachet, maintenant dans les coteaux d'Aix-en-Provence, les Alpilles. Voilà, dans ce beau domaine.
Le cadre est magnifique.
Le cadre est magnifique.
Il y a pire. Égalière,
oui.
Et puis depuis 96, en plus, le choix de la certification en agriculture biologique.
En fait, quand le domaine a été repris, donc en 93, la transition s'est faite naturellement. Donc de 93 à 96, la transition était en cours. Puis depuis 96, c'est officiellement en bio. Et je pense qu'on est, c'est même pas je pense, on est dans les domaines pionniers de l'appellation à être passé sur le bio. Le bio qui est facile dans cette région, si on peut dire, puisque quasiment tous les domaines qui nous entourent le sont. Mais le soleil, le vent, Domaine des Halles va avec oui, le côté ça, vent, c'est fait qu'on arrive à faire du bio de belle qualité.
Le Mistral, là-bas,
sans être trop compte, pardon.
Essentiellement le Mistral.
Le Mistral, oui. Et puis, je veux dire, on a tout le vent de la vallée du Rhône qui arrive sur les Alpilles, mm-hmm. donc avec une force importante, à part de, par moment. Et ça, le milieu et l'oïdium, ils n'aiment pas trop ça.
Et d'ailleurs, parlant d'Alpilles, vous êtes à cheval sur l'appellation Beaux-de-Provence et Aix-en-Provence, finalement.
Exactement.
Vous avez un pied d'un côté, un pied de l'autre. Vous
exactement. On est même à la frontière. Il y a même certaines de nos parcelles qu'on pourrait valoriser en beau. Peut-être mm-hmm. qu'un jour, ça arrivera, notamment sur des rouges. Mais pour l'instant, le côté coteau d'Aix est plus facile à valoriser, notamment en rosé, mm-hmm. à l'export. Donc, on reste sur cette belle appellation, qui est une très belle appellation. On a des jolis noms, coteau d'Aix, malgré tout.
Christelle ?
Vous avez tout de suite fait, de toute façon, le choix du qualitatif versus quantitatif aussi, avec la maîtrise des rendements.
Oui. Voilà. Ben, aujourd'hui, on est sur un rendement moyen entre 30 et 35 litres hecto par, 35 hecto par hectare. Mais on a des parcelles sur les novins les plus haut de gamme où on est à moins de 10 hecto par, hecto par hectare. Ce qui est très faible, mais qui nous permettent de faire des choses rares, puisque bon, je parle de vins qui sont en 100% Carignan ou en 100% Syrah, qu'on n'a fait que dans les millésimes d'exception. Sur 30 ans d'existence du domaine, il y a 4 100% Carignan et 1 100% Syrah. Mmh.
Philippe Forbach, est-ce que c'est forcément meilleur quand on a un petit rendement ? On a déjà parlé il y a quelques temps d'une vieille vigne, est-ce que c'est forcément meilleur un vin issu d'une vieille vigne ? Et quand on a un petit rendement, est-ce que c'est forcément bon ?
Il faut avoir un bon rendement, équilibré. Vous parlez, c'est votre métier un peu, l'écho, etc.
Les renards, les anglais, tout ça.
Non, mais, non, mais c'est, voilà. Alors, on a tendance à penser que oui, si on diminue le rendement, on va concentrer finalement le goût, la variété, on va plus faire parler le terroir. Mais il y a peut-être des limites dans la concentration. Et c'est plutôt l'équilibre qui est recherché.
C'est d'ailleurs pour ça que malgré ces petits rendements qu'on a sur des parcelles qu'on a chaque année avec ce petit rendement,
c'est
la qualité
ne s'y
prête que...
Voilà.
Absolument.
C'est
quoi.
Pas,
et ces petits rendements, ça concerne les blancs, les rouges, les rosés, c'est d'accord. Il y a une notion de qualité quand c'est
ça n'a rien à voir avec la couleur. Bon, c'est le raisin au départ, donc c'est soit du raisin blanc, soit du raisin rouge. On fait rarement du rosé avec des vieilles vignes qui font 10 hectolitres à l'hectare. Il n'y a pas d'intérêt majeur. Et peut-être même pas qualitatif de faire ça avec des très vieilles vignes. En revanche, pour les rouges, sûrement pour les blancs, mais en tout cas pour les rouges, j'ai des expériences effectivement de saveur, de concentration, justement d'effet terroir encore peut-être plus marqué que pour les blancs.
Christelle ?
D'ailleurs, je rebondis pour dire qu'on connaît beaucoup cette région au travers de ces vins rosés, alors que les vins rouges, les vins blancs qui sont plus méconnus sont vraiment très beaux aussi, de belle qualité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez envie de mettre en avant ces couleurs ?
Bah écoutez, déjà, on fait partie d'une association qui s'appelle Rouge Provence, qui cherche à valoriser les vins rouges de Provence. Mmh. Parce qu'on a vraiment des très beaux terroirs à rouge, que ce soit chez
absolument.
Nous, aussi à Bandol. Vous avez des très grands Bandol rouges. Il y a des choses vraiment exceptionnelles en rouge en Provence. C'est important de le mettre en valeur, parce que c'est vrai qu'on est, porté par le rosé. Et c'est bien, parce que...
Votre pourcentage de rosé sur...
Nous, personnellement, on est à 50% de rosé, 35% de rouge et 15% de blanc.
Ah, mais c'est bien.
Alors que sur l'appellation Côte de Provence, par exemple, c'est 90% de rosé, même davantage.
Et nous, on fait du blanc depuis 2003 sur des parcelles qui sont un peu plus protégées, un peu plus en altitude. On parle d'entre 90 et 180 mètres d'altitude, c'est pas une grosse différence. Mais dans des terroirs un peu plus enclavés, un peu plus en montagne, un peu plus en forêt, qui permettent de faire des blancs qui gardent une belle acidité, une belle fraîcheur, tout en restant solaire comme on cherche dans un blanc provençal.
Christelle ?
Et les cépages que vous utilisez pour les appellations, justement, en blanc, en rosé, en rouge
bon, on a 10 cépages différents sur le domaine. On travaille qu'avec des cépages méridionaux. Donc on a une majorité de Grenache, de Syrah, de Cinsault, mais aussi du Carignan, de la Counoise. On a aussi un peu de Roussanne pour faire une pure Roussanne. On a du Grenache blanc, on a du Roll. Voilà, on est sur 10 cépages différents. Et c'est important pour nous parce que rien que dans notre rosé, on retrouve 6 cépages différents. Ce qui permet de faire un rosé qui soit dans l'air du temps, qui soit intéressant aussi puisque plus complexe de par ces 6 cépages et qui reste sur une couleur cohérente aussi. C'est important pour nous parce qu'on cherche quand même des rosés qui sont un peu plus travaillés que ce que peut-être les gens ont dans leur imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'au bord de la piscine avec un cubi. Un rosé, ça peut être un vrai vin de grande qualité.
Exactement.
Et puis à la mer aussi, avec la piscine. Pour la partie distribution, comment vous êtes organisé ? Donc, en moyenne, combien de bouteilles par an vous faites ?
On fait entre 120 et 140 000 bouteilles par an.
D'accord. Et donc, vous ne les buvez pas toutes, hein, vous les vendez un peu en dehors.
Oui, ouais. Bon, donc, la moitié de ce qu'on n'a pas vendu, on le revend. Et on travaille beaucoup en direct, puisqu'on est dans une région assez touristique.
D'accord.
On a presque 20% de notre chiffre d'affaires.
Vous accueillez, il y a un caveau, on peut venir.
Oui, il y a un caveau, vous pouvez venir. Le caveau est très bien placé en face des Alpilles. C'est une belle expérience. Vous traversez nos vignes et vous arrivez jusqu'à chez nous. C'est très joli.
Et ça, c'est combien en pourcentage de vos ventes, la vente
20% à peu près.
C'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Hein, c'est...
20% en volume ou en valeur ?
En valeur.
En valeur. Donc en volume moins.
Mais par contre, on travaille beaucoup avec les restaurants autour de nous.
On valorise bien au caveau le prix de façon générale. C'est ce qui
justifie. Et puis c'est payé tout de suite en plus, il n'y a pas de problème.
Absolument.
Hein. Absolument. Et puis même parfois en liquide. Non, je plaisante. Alors, donc, la distribution, donc les restaurants, vous en vendez aussi chez les restaurateurs?
Oui, on travaille beaucoup avec les restaurants et c'est bien parce que c'est une belle vitrine pour nous. Ça nous permet de. Les gens goûtent avec un plat. C'est vrai que souvent un vin, quand on goûte tout seul, c'est bien, mais le goûter avec une.
Alors justement, Philippe Forbach, vous êtes un spécialiste notamment des plats. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec les rouges? Là, on voit 35% de rouges. Bravo pour la production.
L'agneau des Alpes, on est en pleine saison. Après Pâques, là, qui a eu il y a quelques temps, et on est en plein dans l'agneau pascal. Donc, effectivement, ça va très bien. Et si vous rajoutez un petit peu de tomates confites, un petit peu d'olive noire, etc., et des herbes, bien entendu, le thym, le romarin, enfin, toutes les herbes du coin, des alpilles, c'est un vrai bonheur. Et puis, avec un peu d'âge, on peut les goûter, effectivement, avec une gourmandise, un vin de 2-3 ans, mais les rouges d'éole, comme
4-5 ans, 6 ans. Là,
même entre 5 et 10 ans, c'est, c'est le moment où il s'éveille.
Et alors sur les blancs, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec les blancs? 15% de la production en blanc.
Alors, ça dépend un peu des cuvées, mais si votre cuvée classique qui est sur des grenaches au rôle par exemple, là on peut aller sur des poissons méditerranéens. Il a expliqué qu'il avait une tendance vraiment de choix, et c'est vrai, de cépages méditerranéens. Donc sur des poissons grillés de Méditerranée, bar, dorade, juste avec un peu de fenouil, il y a des jolis plants de fenouil dans le coin là-bas. Et c'est vrai que le côté anisé va très bien avec les blancs de Provence.
Et sur le rosé alors? Comme ça on aura fait les trois couleurs.
Bah, sur le rosé, on se pose
tout
pas de questions.
Tout va bien sur le rosé.
Le rosé en ours, on se pose même pas de questions. Les rosés, ça va très bien sur les salades. Enfin, des petites salades composées dans lesquelles effectivement la salade, mais aussi...
Il y a un petit peu d'olive ou pas dans vos salades?
Oui, on peut, surtout de l'huile d'olive d'ailleurs. Vous en faites une très bonne au domaine aussi. Elle va
sous la même marque?
C'est pas la même marque, mais c'est Mathias.
C'est le même domaine. Et pour terminer, le prix de vente de vos bouteilles, parce que Philippe a bien expliqué avec quoi les associer, mais il faut d'abord les acheter. Mm-hmm. Et combien ça coûte une bonne bouteille de rouge, de blanc, de rosé en moyenne chez vous?
On est entre 11 et 30 euros, puis ensuite on peut aller. On a des cuvées particulières qui vont jusqu'à 50 euros.
Ah, quand même! Ah, ben oui, ça c'est.
Le cœur de notre gamme est entre 11 et 30 euros.
Entre 11 et 30 euros.
50 euros, c'est un Magnum, non?
Oui, c'est ça, c'est caisse de 6 en fait. Et pour terminer, donc température, le service, surtout dans vos régions, où la chaleur règne. Pour les rouges, à combien on les sert?
Nous, on les sert entre 17 et 18 degrés.
17-18 degrés. Merci beaucoup, Ludovic. Merci également, merci Christelle et Philippe. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Toulouse avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et des spiritueux, qui va se dérouler du 12 au 14 mars à Reims. Et 6 verres Cabernet de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner ça, il faudra aller sur invinoradio.tv. A tout de suite.
Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30-14h.
Retour chez le caviste Nicolas de Toulouse. Nous sommes au 22 avenue Saint-Exupéry pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque week-end, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio, toujours plus d'actualités. Et on retrouve maintenant Philippe Forbach et le Vino Quiz.
Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, International Trade Fair, le mondial de l'œnotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et 6 verres Cabernet de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était: avec qui Benoît Salel a-t-il créé le domaine Salel et Renault dans la vallée du Rhône? Réponse A, son épouse. Réponse B, une inconnue. Réponse C, son grand-mère. Et la réponse A était son épouse.
Son épouse. Mais on embrasse Élise cette semaine.
Voici la question de ce week-end. Au cœur de quel parc naturel de Provence se situe le domaine d'Éole, dont Ludovic Vasson est le directeur adjoint? Réponse A, le parc naturel de la Quille. Réponse B, le parc naturel des Alpilles. Réponse C, le parc naturel de la Vanille. Ça, c'est aussi très, très, très compliqué, ça. Ouais. Voilà, pour répondre, on vous le souhaite, hein, et gagner les fameuses deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de l'œnotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et si vert, Cabernet de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré parmi la multitude des bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Invino sur Radio accueille maintenant un nouvel invité, Emmanuel Poirmer, qui est propriétaire du domaine Egia Tegia. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Alors, vous êtes où, là, avec ce nom-là? Vous êtes basque, non?
Côte basque.
Côte basque, quoi. Et ça veut dire quoi, exactement, en basque?
Alors, Egia, c'est la vérité.
D'accord.
Et le suffixe Tegia, c'est la manufacture.
La manufacture,
l'endroit
quoi.
Artisanal, en fait. C'est l'endroit où on invente.
D'accord. Alors votre vie, elle commençait mal, hein. Vous avez grandi en région parisienne?
Non, plutôt bien, sur l'île Saint-Louis.
Ouais, bon, ça va. Et puis, il y a quoi? Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez 8 ans, là, vous avez vu l'arrachage de vignes dans le domaine familial, dans le Lot-et-Garonne, c'est ça?
Ouais, j'avais le luxe de grandir à Paris.
Ouais.
Et d'avoir
dans
des
les beaux
vignes,
endroits, en plus.
familiale de mes arrière-arrière et arrière-grands-parents, qui étaient pépiniéristes, tonneliers, maîtres de chais. Oui. Et donc, je rentrais un peu en retard à l'école parce qu'on faisait les vendanges sur les dernières vignes. Et à 8 ans, on a arraché, j'étais en CE2.
Et oui, ça vous a marqué,
j'ai pas
ça.
Aimé. Ouais. J'ai pas aimé.
Et donc, vous êtes formé au vin? Vous avez toujours voulu bosser là-dedans?
Toujours. Et en fait, c'est à cette période-là, d'ailleurs, j'avais demandé à mes voisins, j'étais dans une sorte de pépinière, il n'y avait que des X autour, des polytechniciens, parce que voilà, c'était comme ça. Et j'ai demandé ce qu'il fallait faire pour faire du vin. Ils m'avaient dit, il faut être ingénieur agronome et œnologue, en me disant Paris et Montpellier. Hop. Et donc, j'avais marqué, parce que j'étais déjà un peu impertinent, ingénieur agronome, œnologue en CE2.
Voilà. Très bien, vous n'êtes pas trompé. Christelle?
Votre histoire, c'est quand même une aventure particulière aussi, puisqu'en 2001, vous vous rendez compte que les paramètres physiques pour la seconde fermentation que l'on peut retrouver sont présents naturellement en milieu marin. Voilà. Et 7 ans plus tard, vous déposez un brevet de vinification océane. Voilà. Vous pouvez nous raconter comment vous arrivez à ça? C'est une aventure assez surprenante quand même.
Alors, c'est une aventure très surprenante de déposer un brevet, surtout dans la filière viticole, où tout ce qui n'est pas dans le Codex Oenologicus est interdit. Et donc, tout ce qui est écrit dans ce codex est autorisé. Et normalement, quand on dépose un brevet, on ne peut pas l'essayer avant, puisqu'il faut que ça soit absolument inventif et nouveau. Donc, moi, j'ai une idée que j'avais détournée du maritime déjà en 2000, quand j'étais en stage de fin d'études d'œnologue à Château-Margaux, qu'on m'a piqué, en fait, mon rapport de stage.
Voilà. On vous l'a volé?
On me l'a volé et quelqu'un d'autre l'a déposé.
Qui est ce vilain méchant?
Je ne vais pas le dire, je vais le garder.
C'est vrai
pour moi,
ouais. Si un jour il vous embête, vraiment dites-le, on vous réinvite et vous direz le nom.
Il a essayé de me le revendre. Donc,
D'accord. c'est vraiment un doublement pourri, quoi. Alors.
Donc, ouais. je connais bien. Mais donc, ça a été un des déclencheurs et je me suis dit que cette idée que j'avais eue en Argentine quand je faisais de l'effervescent en cuve et où cette seconde fermentation nécessitait des conditions physiques de pression, d'agitation et de température assez particulières, cette idée qui pouvait, moi, correspondre à mon projet de vie qui était de vivre de mon métier, du vin. Et sur la côte basque, un peu comme les saumons, là où j'étais en partie issu, je me suis dit, je vais commencer déjà par voir si c'est déposable. Et j'ai déposé le brevet en 2007 de vinification et d'élevage de vin sous l'eau. Voilà, c'est 6 mois un peu d'action un peu dure. Et ensuite, en 2017, là, suite à plus de 10 ans en fait, d'expérimentation, j'ai pu déposer un deuxième brevet, et là, qui est sur tous les substrats d'origine organique en conditions sous-marines.
Voilà. Mais alors, l'élevage, on peut comprendre, vous vinifiez sous l'eau?
Oui.
Racontez-nous comment ça se passe là.
Alors ça se passe déjà, ça commence par de la sélection de raisins ou de vins.
D'accord.
Aux qualités particulières, des premières vinifications aux qualités et aux caractéristiques très particulières, parce que un peu à l'instar des vins effervescents, le but c'est pas que le vin de base soit bon, c'est que ce vin de base soit un bon support pour une seconde fermentation alcoolique et pour développer des arômes.
Philippe ?
Oui, c'est ce qui est intéressant d'expliquer, c'est effectivement c'est déjà du vin au départ et du raisin éventuellement mixé qui va fermenter une deuxième fois.
D'accord, il y a déjà une première base qui a été réalisée sur terre.
Et une des choses essentielles, c'est que nous on fermente en cuve. Et c'est pour ça que mon brevet.
Mais nos cuves, elles sont sur terre ou sous l'eau?
On a un chai à terre, un chai terrestre, ouais. Et on a un chai maritime.
D'accord.
Voilà, à l'heure où je vous parle, là on a 70 cuves, quasiment l'équivalent de 90 barriques. Et là, je pense que cette année, on va passer l'équivalent quasiment de 800 barriques sous l'eau.
Et comment vous travaillez là? Vous avez des bouteilles?
Donc, je fais des premières fermentations à terre, au plus proche des vignes parfois, ou selon les nestés de la cuverie, directement à Sokoa. Ensuite, ces vins-là, on les met dans nos cuves de fermentation qu'on a dessinées, qu'on fabrique.
On a enchaîné tout le chaîne de savoir-faire. Grande bouée, si on veut.
C'est ça. On a plusieurs modèles
ce que ça donne.
Qui vont de 100 à 700 litres. Et celles qu'on utilise par tout temps, elles font 265. Et donc, on remplit ces cuves-là avec des liqueurs de tirage spécifiques, un peu comme en Champagne. Hein, je reprends toujours cet exemple-là. Et juste après avoir ensemencé nos cuves, on les plonge sous l'eau pour ne pas que la fermentation reprenne à terre, mais bel et bien sous l'eau. Et donc, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, on immerge depuis 2008 à 15 mètres de profondeur. Et cette seconde fermentation, on estime qu'elle dure 30 à 45 jours et on laisse nos cuves de 3 mois jusqu'à 1 an sous l'eau. Et puis là, on va tester des choses plus longues. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a à la fois les conditions atypiques de vie des levures qui vont les pousser à faire des arômes différents, mais c'est surtout qu'on fait un hyperbâtonnage.
Qu'est-ce que c'est que l'hyperbâtonnage? C'est pour les gens pas gentils, hein, Philippe?
Par exemple. Emmanuel va nous expliquer la façon dont il le gère, lui,
en permanence remuée. Elles font même 180 degrés d'angle, elles tapent au sol, ouais, hein, pendant une tempête.
Il y a du gîte.
Mais on est sans oxygène, parce qu'on est sous l'eau, et c'est tout l'intérêt de fabriquer nos cuves, parce qu'on peut justement gérer avec la taille du matériau la porosité à l'oxygène.
Il n'y a pas un temps en temps une cuve qui se barre, là?
Ça arrive.
Ça arrive, ouais. Ah, donc c'est ça qu'on trouve en Angleterre.
C'est pour ça que la plage de Saint-Jean-de-Luz est très fréquentée.
Absolument.
Notamment au moment des fermentations. Ouais. Si vous sortez vers le large, c'est sur la gauche, hein, en sortant... Hein. Ouais.
Et vous avez trouvé un accord facile avec le
globalement, je vais quand même vous répondre. Là, depuis septembre, j'ai mis 160 cuves sous l'eau.
Ouais.
On en a eu deux sur la plage Saint-Jean-de-Luz. Et à chaque fois, c'est consécutif au passage d'un chalutier.
Ah, c'est un chalutier, quoi.
Qui a tapé les algues de nos installations.
Et vous avez négocié d'avoir un... Il y en a qui ont un parc austréicole. Vous, c'est un parc œnologique.
Exactement. Exactement. Ouais. Même type d'autorisation.
Ah oui.
Voilà. Donc,
ils vous ont pris pour un dingue, non?
Oui, surtout que c'était en 2007.
Oui, en plus, quoi.
Donc maintenant, finalement, l'immersion, ça devient presque banal. Je crois qu'on commence à en parler un peu.
Oui, on parle de partout. Oui, on goûte les whisky, champagne. Oui.
Et qu'est-ce que ça apporte, d'ailleurs? Parce que c'est bien, mais pourquoi se compliquer la tâche?
Nous, c'est différent. En fait, je ne veux surtout pas dénigrer ceux qui mettent des bouteilles sous l'eau. Ça peut être au même titre qu'un élevage en amphore. C'est un autre type d'élevage. Voilà. Nous, on est en amont, on est sur des phases fermentaires, on est dans de la création aromatique. Et ce que ça apporte, c'est des conditions de vie des levures différentes de ce qu'elles connaissent. Et un peu comme partout dans le vin, ce que ça doit apporter, c'est une expérience pour le consommateur.
Absolument. Et quand vous avez déjà testé d'avoir une bouteille, on va dire, élevée sous l'eau, là, puis une sur terre, ou en comparant les goûts ou pas?
Je reprends, c'est des cuves.
Des cuves.
Et on a toujours des cuves témoins à terre.
D'accord.
Et d'ailleurs, on arrive très facilement à faire sous l'eau des fermentations jugées impossibles à terre. Donc nous, on fermente facilement des rouges à 14 degrés dans une eau à 6.
Incroyable.
C'est pas un sujet, c'est pas dans les bouquins de nos.
Christelle,
vous pouvez nous donner un exemple, ça m'intéresse, par exemple, quel cépage vous utilisez, quelle différence vous pourriez avoir en terre et en milieu marin?
Par cohérence écologique et géographique, moi j'ai voulu travailler des cépages locaux au plus proche. Par contre, il n'y avait plus de vignes sur la côte basque, j'en ai replanté. Le folklore aurait été de prendre mes vignes, en sortir le raisin et le mettre sous l'eau, mais on l'a essayé, c'est pas bon. Donc en fait, c'est Erlaitsa, c'est une exploitation viticole individuelle complètement à part. On ne le met pas sous l'eau. On essaye, mais c'est jamais fantastique. En revanche, Eguia Teguia, là, ce sont des sélections de raisins et de vin. Et puis maintenant, on est sur des volumes conséquents parce que en production d'AOC classique, ça représenterait quasiment 40 à 50 hectares, hein, maintenant, notre production.
Ça fait combien de bouteilles à peu près?
200 000.
Ah oui.
En augmentant un peu, parce qu'en plus maintenant on vinifie en collaboration en fait pour un groupe espagnol, dans l'attente de pouvoir créer une bodega sous-marine avec eux. Donc on est sur en fait la divulgation du procédé. C'est un procédé qu'on a nommé Winerif comme ça. Mais à l'origine, il y a aussi une énorme préoccupation écologique.
Oui.
C'est pour ça que je ne vais pas aller chercher du Riesling alsacien pour le mettre dans la bête.
Et là, vous avez déposé le brevet mondial. Donc, il n'y a que vous qui avez le droit de faire ça, quelque part, sauf si quelqu'un le conteste.
Sauf si on demande poliment.
Ouais.
et aussi pour ne pas faire n'importe quoi sous l'eau.
Ouais, c'est bien.
Donc, en fait, ce brevet, c'est le couvercle de la boîte de Pandore.
Ouais. Et vos bouteilles, vous les vendez combien? Parce que votre marketing est magnifique. Hein. Ouais. Et vous les vendez combien, les bouteilles?
Ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas de marketing.
D'accord. Donc, vous les vendez bien.
On vend du contenu. On les vend 12 euros.
Ah, c'est raisonnable.
Pour les terres mères. Ça, c'est un assemblage entre le même vin. D'ailleurs, on va le goûter.
Ouais.
Et c'est un assemblage qui va en fait globalement de 20 jusqu'à 55% entre du vin qui allait sous l'eau et le même vin qui restait en cave à Sequoia.
C'est génial.
Voilà. Ensuite, on monte à 40.
Et à 40 euros?
Ouais.
Ah, passer de 12 à 40, vous?
Ça, c'est du 100% immergé.
D'accord.
Et par cuve, même si elles partent identiques, certaines sortent toutes différentes. Donc, par cuve, c'est des lots de 300 bouteilles. Et là, je pense qu'on est sur des cépages rares, parce que maintenant, j'ai des partenariats avec des petits vignerons, on teste plein de cépages dans le but de l'expansion du procédé. Et là, on va flirter les 100, je pense.
Merci beaucoup, Emmanuel. Vous avez un site internet pour suivre votre aventure qui est juste passionnante?
Oui, c'est www.eguiateguia.fr.
Écrivez-le avec des mots, là, parce que Eguiateguia, là, c'est allô, allô. Oui.
E-G-I-A-T-E-G-I-A.
Merci, Emmanuel, vous êtes super. Merci Christelle Emmanuel. Également. Ludovic, merci. Philippe Forbach, million d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, nos comptes Facebook et Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve demain, ça sera 12h30 précise, pour un nouveau numéro chez Nicolas, le caviste fondé en 1822, qui, vous le savez maintenant, fête cette année ses 200 ans. On recevra Jean d'Artuy, qui est associé gérant du domaine, un excellent domaine de terre brune. On sera à Bandol, ainsi que Philippe Pacalet pour le meilleur de la Bourgogne. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.
Sud Radio, Invino.